Je pense que nous sommes sur la bonne voie.
Quels sont les points d'achoppement?
Aucun.
Joe Biden assure donc avoir finalisé un accord budgétaire avec le leader républicain à la Chambre des représentants. Il s'agit de suspendre provisoirement le plafond de la dette, d'éviter le défaut de paiement. Antoine Larigauderie, qu'y a-t-il dans cet accord au juste ?
Alors, beaucoup de concessions faites aux Républicains, mais a priori, peu de suspense là aussi, ça devrait être adopté. Plafond de la dette donc relevé pour 2 ans. Dépenses publiques stables pour l'année prochaine, hausse des budgets, notamment pour la défense, pour les vétérans, réduction très nette pour les budgets spéciaux de lutte contre le Covid, rationalisation pour tout ce qui est environnement, etc. On a un projet qui va plaire aux Républicains et les démocrates seront obligés de le soutenir car Joe Biden s'est vraiment engagé. En plus, Janet Yellen estime désormais qu'un éventuel défaut technique n'interviendrait que le 5 juin, donc ça laisse un petit peu de marge supplémentaire aux parlementaires pour se pencher sur le projet d'accord. Mais l'essentiel est là, le défaut est évité clairement. C'est une bonne nouvelle qui écarte le risque de défaut qui aurait été une catastrophe, dit la présidence.
Antoine, on entend des alarmes autour de vous. J'espère que ça n'a rien à voir avec la dette américaine.
Oui, ça arrive le matin, tout va bien.
Ah, tout va bien, tout un peu. Bon, comment les marchés vont réagir à cette annonce?
Malgré tout ce qui se passe ici, il n'y a pas grand-chose à prévoir ce matin. Alors déjà, parce qu'on a légèrement anticipé vendredi, c'est le moins qu'on puisse dire, on sentait que ça viendrait dans le courant du week-end, hausse d'1,2, 1,3% pour Wall Street, pour le CAC 40 en clôture vendredi, baisse marquée de la volatilité, on est passé d'un VIX qui était au-delà des 20 points à moins de 18. Donc il y a du progrès, ça a libéré un petit peu de potentiel et on a des investisseurs moins crispés. Maintenant, ce matin, clairement, il n'y a rien du tout à l'horizon. Le dollar ne bouge pas, les taux américains sont même légèrement tendus à 3,8. Déjà, on attendait que tout ça passe maintenant au Congrès. Et le temps presse. Déjà, rien qu'aujourd'hui, c'est jour férié aux États-Unis, donc a priori, pas de discussion avant mardi. Et d'ici là, il va falloir faire le compte des éventuelles factures gouvernementales à payer et des paquets de nouvelles dettes à émettre pour le Trésor américain. Et ça, ça risque de laisser le marché sur une note plutôt prudente dans les tout prochains jours.
Merci Antoine. En France aussi, la dette de l'État est surveillée de très près. Standard & Poor's actualisera sa note ce vendredi. Elisabeth Borne fait valoir ses réformes et dit que le gouvernement a eu des discussions très étroites avec l'agence de notation dans un entretien accordé hier à Radio J. Je vous rappelle que Fitch a récemment dégradé sa note de crédit pour la France.
En Turquie, le président Erdogan est donc reconduit, l'emporte avec 52,1% des suffrages. Le candidat de l'Alliance des partis de l'opposition reconnaît sa défaite, mais parle de l'élection la plus injuste depuis des années. Une victoire qui inquiète sur le plan économique, car Erdogan promet de garder le cap sur sa politique atypique, pour ne pas dire hasardeuse, alors que le pays est rongé par la crise. Raphaël Couder.
Pas de bouleversement en vue, Recep Tayyip Erdogan compte bien poursuivre sa politique monétaire à contre-courant face à l'inflation qui continue de galoper dans le pays, toujours en hausse de 44% en avril. Le président réélu suit en effet depuis 2 ans une voie peu orthodoxe. Erdogan presse sa banque centrale pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Ces derniers sont passés de 20% il y a 3 ans à 8,5% aujourd'hui. Le but recherché, stimuler la croissance par l'endettement, mais cette stratégie est loin d'avoir porté ses fruits. Au contraire, le déficit commercial turc bat des records. Sa monnaie, la livre, a perdu plus de 80% de sa valeur en 5 ans. Face à cela, les autorités monétaires ont vendu plus de 9 milliards de dollars de réserves de change début mai, ce qui porte le bilan de la banque centrale turque à son plus bas niveau depuis plus de 20 ans et attise encore un peu plus les craintes des investisseurs.
Et à 7h45, Denise Yunal, économiste au CEPI, sera avec nous.
7h03 sur RMC Découverte BFM Business. En Espagne, les socialistes au pouvoir sont en difficulté. Le Parti Populaire a remporté hier plusieurs scrutins régionaux, ce qui fait dire au leader du principal parti d'opposition que l'Espagne a entamé un nouveau cycle politique, sachant que des législatives auront lieu en fin d'année.
Le premier avion de ligne de conception chinoise, le C-919, a réalisé hier son premier vol commercial, un tournant pour le secteur chinois du transport aérien qui souhaite rivaliser depuis longtemps avec ses concurrents occidentaux à Pékin. Sébastien Belzic.
Oui, le vol MU-91-91 s'est posé hier en douceur, selon le communiqué de la compagnie China Eastern à l'aéroport international de Pékin, avec 130 passagers à son bord. Premier vol commercial réussi donc pour le C-919, un concurrent direct de l'Airbus A320, l'avion le plus vendu au monde. C'est le premier moyen courrier entièrement fabriqué par la Chine, à l'exception notable du moteur fourni par le groupe français Safran. Il aura quand même fallu 10 ans à la COMAC, le conglomérat public chinois chargé du projet, pour réussir ce défi. L'appareil détail coûte au final deux fois plus cher que prévu, soit quasiment le même prix que ses concurrents occidentaux. Mais pour la Chine, c'est d'abord et surtout une question de prestige. Les compagnies chinoises ont déjà commandé plus de 300 appareils, mais il faudra encore attendre pour le voir voler hors de Chine. Le C919 n'a pas encore reçu le feu vert des régulateurs européens et américains.
Sébastien Lebelzik à Pékin. Et puis en Chine toujours, on sait aussi que demain sera envoyé pour la première fois de son histoire un astronaute civil dans l'espace, en l'occurrence c'est un scientifique, une mission habitée vers la station spatiale Tiangong.
Revolut, la néobanque britannique, passe à la vitesse supérieure. Elle se lance à partir de demain en France dans le crédit à la consommation. Objectif, étendre sa palette de produits pour devenir une banque, une vraie banque. Caroline Morisseau.
Revolut voit grand, elle veut devenir une vraie banque capable de rivaliser avec les plus gros acteurs français. Dans son viseur, Boursorama, leader historique de la banque en ligne, ou encore le Crédit Agricole. Pour cela, elle va progressivement étoffer sa gamme de produits. D'abord avec des crédits à la consommation, jusqu'à 50 000 euros sur 84 mois maximum. Mais derrière, elle réfléchit déjà à se lancer dans le crédit immobilier. L'objectif est clair, que ses clients en fassent leur banque principale, c'est-à-dire qu'ils y logent leur salaire, la clé pour aller chercher de la rentabilité, alors que jusqu'ici, le gros de sa clientèle était composé de voyageurs qui se laissaient séduire par ses conditions de change et ses retraits gratuits à l'étranger. Revolut fait pour l'instant pâle figure par rapport à Boursorama. Elle revendique 2,3 millions de clients en France, soit deux fois moins que la filiale de la Société Générale. Mais elle a obtenu sa licence bancaire en France il y a seulement un an. Et elle affiche de grosses ambitions partout dans le monde. Elle vise 100 millions de clients d'ici à 2025, soit quasiment quatre fois plus qu'aujourd'hui.
Et dans 15 minutes, Antoine Lenel, le vice-président de Revolut, est notre invité.
À la direction Les Hauts-de-France maintenant, là où se concentrera bientôt la production française de batteries. Plus de 20 000 postes devraient être créés dans la région d'ici à 2030 grâce à l'installation de 4 usines de production. Et justement, la toute première de ces 4 gigafactories va ouvrir ses portes demain près de Lens. Reportage donc chez ACC avec Raphaël Couder.
Après 20 années passées à construire des moteurs thermiques pour Peugeot, cet ouvrier apprend un nouveau métier. Dès les prochains jours, Sylvain Desquien sera chargé de découper des feuilles d'aluminium au laser pour fabriquer des batteries électriques.
C'est un challenge en fait de partir d'un truc que je connais, mais sur quelque chose que je connais pas du tout et puis qui est pas fait en fait, qui est pas fait en France, qui est pas sur la nouveauté quoi. Donc j'ai dit je vais tenter le coup. Et pour l'instant, ça marche bien.
Et il est loin d'être le seul. Entre Envision, Vercor et Prologium, 3 autres gigafactories vont s'installer dans le nord de la France dans les prochaines années. Le défi, c'est donc d'attirer les talents par milliers et de les former rapidement, explique le directeur du site.
Nous formons au métier de conducteur d'installation, c'est-à-dire conducteur de machines complexes, de lignes complexes, où nous recrutons déjà des personnes qui viennent d'autres industries comme la papeterie, la sidérurgie, l'automobile, la pharmacie.
La course contre la montre est lancée. ACC démarre la production dès cet été et doit livrer ses premiers clients à la fin de l'année.
Le compte à rebours des Jeux Olympiques est lancé sur les Champs-Élysées à moins de 16 mois de l'événement. Toutes les grandes marques ont lancé des travaux dans leurs boutiques. Le 26 juillet 2024, évidemment, tout doit être prêt. Thomas Schnell.
À l'approche des Jeux Olympiques, les ouvriers de la voirie défoncent les trottoirs pour remplacer les pavés de granit. Pas moins de 12 chantiers majeurs sont en cours le long des 2 km. Ici, sur les Champs-Élysées, une nouvelle boutique ouvre presque chaque semaine. En ce moment, la pression immobilière s'accroît, constate le directeur du pôle retail de BNP Paribas Real Estate, Cyril Zapria.
Probablement pour avoir une visibilité plus forte au cours des Jeux Olympiques, on sait que les Champs-Élysées sont une partie centrale de Paris. Et probablement, pendant les Jeux Olympiques, il y aura des manifestations qui devront se dérouler depuis les Tuileries jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ça leur permettra d'avoir une visibilité accrue. Donc les valeurs locatives en haut sont revenues sur des valeurs pré-Covid, autour de 20 000 euros pour certaines sur les mètres carrés pondérés. Et sur le bas des Champs-Élysées, on sera plutôt entre 4 et 6 000 euros en mètre carré pondéré.
Au numéro 50, Lacoste a ouvert son plus grand magasin au monde, de 1600 mètres carrés. Le géant du luxe LVMH est aussi à la manœuvre pour installer 25 000 mètres carrés de bureaux dans l'ancien immeuble d'HSBC. Pour l'heure, le chantier est dissimulé derrière la gigantesque palissade consacrée aux créations de Dior, symbole d'un retour de l'attractivité des Champs, assure le président du comité Marc-Antoine Jamet.
Les Champs-Élysées reviennent bankable comme un film, c'est-à-dire que c'est un blockbuster. On sait qu'on va y amener des gens, on sait qu'il y a une bonne distribution, on sait qu'il y a un bon décor, on sait qu'il y a un bon scénario et donc on sait qu'il y aura du public.
Les touristes sont déjà de retour, se félicite le comité, avec un taux de fréquentation des Champs supérieur au niveau d'avant pandémie.